Bonjour à toutes et à tous. Je suis Myriam Victor et je suis ravie de vous accueillir à cette nouvelle webconférence à destination des chefs d'entreprise, des RH, des élus de CSE et des délégués syndicaux sur la gestion des congés payés et des RTT. Donc avant d'entamer cette conférence, juste quelques mots pour présenter Jury Travail à ceux qui ne nous connaissent pas. Jury Travail est le leader de l'information juridique en ligne. C'est tout d'abord un grand nombre d'articles sur l'actualité juridique, mais c'est surtout un abonnement qui vous donne accès à une base documentaire juridique rédigée dans un langage clair. Il vous donne accès également à de nombreux modèles de courriers ou de contrats. Et il vous donne accès également à notre équipe de juristes basée à La Rochelle qui répondent à toutes vos questions par téléphone. D'ailleurs, à la fin de notre webconférence, nous vous communiquerons un lien qui vous permettra de tester notre service en posant votre première question gratuitement à nos juristes. Jury Travail, c'est aussi un réseau d'avocats auquel appartient Maître Laura Pommier, avocate au barreau de Poitiers, que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Bonjour. Bonjour à vous, Maître, et merci d'être parmi nous.
Bonjour, merci à vous.
Alors, je vous communique également les coordonnées de Maître Pommier. Si vous souhaitez la contacter pour lui poser des questions, n'hésitez pas à la contacter. Vous avez ses coordonnées à l'écran. Alors, comme d'habitude, nous avions mis à votre disposition un formulaire en amont de cette webconférence afin de vous permettre de poser toutes vos questions. Nous les avons transmises à notre invité qui va y répondre au cours de cette webconférence. Nous avons prévu une durée de 45 minutes. Normalement, nous devrions nous y tenir, mais comme d'habitude, il peut y avoir un petit peu de débordement. On essaiera de le limiter. Et avant que vous nous posiez tous la question par chat, vous recevrez d'ici quelques jours la vidéo de cette webconférence par email. Si vous souhaitez poser des questions au cours de la webconférence, je vous invite à les poser dans l'onglet « Questions ». Alors, il y a eu une petite mise à jour de notre outil Livestorm. Désormais, il faut que vous cliquiez sur le petit Apps tout en bas à côté du bouton de chat où là, vous avez accès à l'ancien onglet « Questions ». Si vous passez par l'application, à mon avis, c'est un petit peu plus simple. Mais pour ceux qui sont sur PC, c'est désormais comme ça que ça se passe. Et sinon, vous pouvez également les poser dans la fenêtre de chat également. Donc, toutes les questions reçues ont été regroupées sous différentes thématiques. Donc, d'abord, nous aborderons les règles d'acquisition des congés payés et des RTT. Ensuite, nous aborderons les règles pour imposer quand on est employeur ou refuser des congés. Et enfin, dans une dernière partie, nous aborderons quelques cas particuliers comme les dons de congés payés et de RTT, l'incidence des arrêts maladie pendant les congés payés ou les RTT et le compte épargne-temps. Donc, nous allons commencer tout de suite par rappeler les règles d'acquisition des congés payés et des RTT avec cette première question. Comment calcule-t-on les congés payés? Doit-on se baser sur les jours ouvrables ou sur les jours ouvrés? Existe-t-il des règles particulières au cours de la première année de contrat? Je vous laisse la parole, Maître.
Je vous remercie. Alors, effectivement, le Code du travail prévoit la règle de base sur les calculs de congés payés qui nous indique c'est 30 jours ouvrables par an. Ça correspond, alors, de manière générale sur des cas classiques, du lundi au samedi, c'est-à-dire tous les jours travaillables, sauf le jour de repos hebdomadaire. Donc, voilà, ça évolue d'une entreprise à l'autre éventuellement si on n'a pas cette organisation calée sur la semaine du lundi au dimanche. La question des jours ouvrés, ça vient dans un second temps, c'est soit il y a une convention collective qui prévoit que le calcul se fait en jours ouvrés, soit ça va être au choix de l'employeur qui va instituer ça dans l'entreprise. Et la seule règle en réalité qui est à respecter quand on prend cette option de jours ouvrés, c'est que ce soit au moins aussi favorable que si on retient la règle légale des jours ouvrables. Voilà. Après, sur la question de est-ce qu'il y a des règles particulières pour la première année de contrat de travail, non, il n'y en a plus. Il y en a eu pendant longtemps, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, dès lors qu'on acquiert des jours de congés payés, c'est-à-dire tous les mois, 2 jours ouvrés ou 2,5 jours ouvrables, on peut les prendre aussitôt qu'ils sont acquis. Les règles à respecter quand on vient d'arriver dans l'entreprise, c'est simplement de pouvoir prendre les jours pendant la période de prise des congés payés qui a été mise en place dans l'entreprise et que ça corresponde à la règle de l'ordre des départs qui a été fixée également par l'entreprise. Voilà.
Oui, si nous reviendrons sur ces deux points ultérieurement. Oui. Alors, quelles sont les conditions de mise en place de RTT dans une entreprise avec ou sans délégué syndical, puisque là, il y a quand même un rôle de négociation collective non négligeable, sont-elles obligatoires si on prévoit contractuellement une durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures ou y a-t-il d'autres options ?
Alors, ces repos, je parle de repos compensateur pardon, plus que de RTT, puisque depuis la loi 2008, ça a pas mal évolué sur la question. Si on a des délégués syndicaux dans l'entreprise, effectivement, il va falloir négocier avec eux un accord. Il faut également vérifier la question de la convention collective ou d'un accord de branche qui prévoirait déjà cette question. Si on n'a pas de délégués syndicaux dans l'entreprise, dans ce cas-là, on va avoir la faculté en tant qu'employeur de faire une décision unilatérale en sachant qu'il va falloir recueillir l'avis du CSE avant de pouvoir prendre cette décision qui va être applicable à l'entreprise. Voilà. Après, sur la question de ces repos, est-ce qu'ils sont obligatoires si on a une durée de travail de plus de 35 heures ? C'était votre deuxième question. Non, en fait, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Si on travaille au-delà de 35 heures, et même si c'est prévu par le contrat de travail et que ça va concerner tout ou partie des salariés de l'entreprise, on n'a pas d'obligation de mettre en place un accord qui va prévoir des repos compensateurs. On peut payer ces heures supplémentaires. Toutefois, voilà, si on veut compenser le temps de travailler au-delà de 35 heures par des repos, dans ce cas-là, il faut avoir un accord ou une décision unilatérale après avis du CSE.
D'accord, très bien. Et quelles sont les règles donc, pour calculer les RTT ? Et là encore, existe-t-il des règles particulières d'acquisition au cours de la première année de contrat ?
Alors, sur le calcul, on a deux options possibles. Soit on calcule au réel, soit on calcule au forfait. Quand on négocie l'accord, cette question va se poser dès ce moment-là, en réalité. Si on sait que les salariés travaillent à 39 heures dans l'entreprise et font donc 4 heures supplémentaires par semaine, ça se sait, on connaît l'organisation de l'entreprise, on peut prévoir que des repos compensateurs vont être décomptés au forfait, c'est-à-dire qu'on détermine un nombre de jours travaillés ou un nombre d'heures travaillées par an et on détermine un nombre de jours de RTT, enfin de repos, également par année. Mais on a aussi la possibilité de le faire au réel, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a du temps supplémentaire au-delà de 35 heures, on décompte du repos compensateur. Voilà, donc sur les règles de calcul, on a ces deux options qui sont déterminées dès le départ dans la décision unilatérale ou dans l'accord négocié. Après, sur les règles particulières éventuellement sur la première année de contrat, en soi, il n'y a pas vraiment de règles par rapport à la prise des repos du fait qu'on soit sur la première année. Simplement, il va falloir avoir acquis des repos par le travail d'heures supplémentaires, par la réalisation d'heures supplémentaires. Et effectivement, quand on a un calcul qui a été déterminé, par exemple, au forfait, si on a 22 jours de RTT à prendre dans l'année, et bien dans ce cas-là, voilà, ça va être fait au fur et à mesure, on sait qu'il faut les prendre, il n'y a pas de règles spécifiques. Si c'est au réel, il faut avoir acquis un certain nombre d'heures pour pouvoir générer des jours ou des demi-journées de repos compensateur.
D'accord, très bien, merci beaucoup Maître. Alors, les arrêts maladie et les temps partiels ont-ils une incidence sur l'acquisition de CRTT ?
sur l'acquisition des RTT
et des
congés payés. Oui, des congés payés, il me semblait. Mais alors, si on prend les RTT en premier, l'assiette de calcul, elle comprend toutes les heures supplémentaires. Donc, dès lors qu'on a des heures supplémentaires, c'est-à-dire du travail effectif qui est réalisé au-delà de 35 heures, ça veut dire qu'on acquiert des RTT. Si on se retrouve en maladie pendant l'année, bien évidemment, ces périodes-là n'étant pas travaillées, elles ne génèrent pas de nouveaux RTT. Hein, voilà. Si, par exemple, on est sur un calcul des RTT au forfait, comment ça va se passer? Si je suis en arrêt pendant l'année, à la fin de l'année, je vais vérifier combien d'heures j'ai été en arrêt, combien de jours j'ai été en arrêt, combien d'heures il avait été prévu qu'on travaille et combien de jours de RTT on avait fixé au départ dans le forfait. Et on va regarder si on n'est pas, par ce temps d'absence du fait de la maladie, on va venir le déduire du nombre d'heures travaillées et forcément, le nombre de jours de RTT au prorata va être réduit également. Voilà. Donc ça, ça va avoir une incidence comme ça. Si c'est calculé au réel, dès lors qu'on n'a pas réalisé d'heures supplémentaires puisqu'on a été absent, dans ce cas-là, nécessairement, on ne va pas générer de nouveaux RTT sur les périodes d'absence. Après, sur la question des congés payés, sur les temps partiels par rapport aux RTT, effectivement, ça va avoir une incidence puisque si on est à temps partiel, sur les heures complémentaires, on peut générer du RTT, mais bien évidemment, on va en générer moins qu'un salarié à temps complet. C'est pareil, c'est une règle de prorata qui va s'appliquer. Sur la question des congés payés, là, il y a plusieurs distinguos à faire. La question de la maladie, si elle est non professionnelle, elle ne permet pas d'acquérir de nouveaux congés payés. J'ai revérifié là sur la question de la COVID, c'est pareil, c'est toujours considéré comme un arrêt maladie entre guillemets simple, donc on ne continue pas à acquérir des congés payés pendant qu'on est en arrêt maladie, même pour le COVID. Si on est dans une période d'arrêt due à un accident du travail ou une maladie professionnelle, on acquiert des congés payés pendant une durée de 12 mois maximum. Voilà. Sur le temps partiel, en revanche, le légal nous prévoit 30 jours ouvrables, jours ouvrés, c'est 25 jours ouvrés, et le fait qu'on soit en temps partiel n'a pas d'incidence sur ce décompte. Voilà.
D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors, venons-en maintenant aux règles pour poser, imposer ou refuser des congés. Donc, dans quelle limite l'employeur peut-il imposer des périodes de congés payés et de RTT et le CSE doit-il être consulté sur ces périodes de congés imposés?
Alors, pareil, du coup, la dichotomie congés payés et RTT. Sur les congés payés, l'employeur a plusieurs obligations. En fait, il y a plusieurs délais à respecter. On a un premier délai, au moins 2 mois avant la période de prise de congés payés, l'employeur doit informer les salariés justement des dates de cette période. Donc, généralement, classiquement, c'est 1er mai, 30 avril. Donc, 1er mai de l'année, 30 avril pardon, de l'année suivante. Donc, 2 mois avant, l'employeur doit informer des dates de cette période de prise. 1 mois avant le début de cette période, l'employeur doit informer les salariés de l'ordre de prise des congés payés. Ça veut dire qui en premier dans l'entreprise va pouvoir prendre, qui est le suivant, etc., etc. Donc ça vient dans un second temps, c'est 1 mois avant. Et puis, il y a un troisième délai qui s'applique, c'est si l'employeur veut modifier les dates de congés payés, là, il y a une obligation d'information du salarié au plus tard 1 mois avant la date à laquelle il était censé prendre son congé payé. Toujours sur la question des congés payés, si on a un accord d'entreprise qui prévoit les règles, dans ce cas-là, de prise des congés payés, etc., il n'y a pas besoin de consulter le CSE. Si cet accord n'existe pas, il va falloir consulter le CSE pour déterminer, pour l'informer du coup de la période de prise des congés payés et donc en respectant toujours ce délai. Donc en réalité, c'est au moins 2 mois avant. Donc il faut déjà anticiper le fait que au moins 2 mois avant, on va devoir informer le personnel. Donc la consultation du CSE, elle s'est faite encore en amont.
En amont. Voilà. Tout à fait.
Voilà. Et après, sur la question des RTT, là, le Code du travail nous prévoit une disposition qui impose à l'employeur d'informer son salarié. Donc, normalement, en fait, à chaque fois qu'il y a le bulletin de paie qui est émis, il y a un décompte des RTT acquis qui est communiqué au salarié en fonction des heures supplémentaires qu'il a réalisées. Et le salarié, lui, a l'obligation de prendre ses repos dans les 2 mois qui suivent l'acquisition. Voilà, donc l'employeur, sa principale obligation, finalement, c'est l'information du salarié pour que lui sache derrière qu'il va avoir tant de RTT à prendre et dans un délai qui est assez restreint, finalement, puisque c'est que 2 mois. Après, normalement, l'accord qui a été négocié en amont ou la décision unilatérale de l'employeur va avoir prévu toutes les conditions d'information, de prise, etc. Donc, en réalité, il suffit de se reporter à cet accord pour savoir comment ça se pratique. Mais ça relève de la négociation.
Très bien, merci beaucoup. Donc, il faut être ouvert à la négociation sur ces thématiques-là.
Oui, effectivement.
Et employeurs et responsables, enfin, et élus de CSE ou délégués syndicaux doivent se sentir concernés par ce sujet.
Oui, c'est important,
d'où cette webconférence conjointe. Alors, vous aviez parlé des priorités d'ordre de départ, donc ça va être l'objet de cette nouvelle question. Doit-on obligatoirement fixer une priorité d'ordre de départ? Comment le faire? Et là aussi, le CSE doit-il être consulté ou à minima informé sur ce sujet?
Alors, sur la priorité de départ, du coup, en congé payé, effectivement, il y a une obligation légale qui impose de la mettre en place. Donc, c'est pas quelque... enfin, en fait, en pratique, on se rend compte que en interne, généralement, c'est la bonne entente qui organise les congés payés. C'est pas rare que voilà, l'employeur dise « vous avez 5 semaines ». Bon, on y reviendra tout à l'heure, mais il y a 4 semaines obligatoires à prendre entre le 1er mai et le 31 octobre. Débrouillez-vous pour que ça colle avec l'organisation interne. Donc, souvent, ça s'organise comme ça. La règle, par contre, légale de base, c'est de tenir compte du fait que éventuellement, il peut y avoir des conjoints, alors pas forcément mariés, hein, c'est conjoints dans le sens couple qui travaillent dans la même entreprise. Donc, on doit tenir compte du fait que potentiellement, ils vont prendre leur congé sur les mêmes semaines. Il peut y avoir des salariés qui travaillent à temps partiel et du coup qui cumulent plusieurs emplois dans diverses entreprises. Donc là aussi, on va faire en sorte qu'ils puissent prendre les congés payés au même moment dans toutes les entreprises. On va également tenir compte du fait que certains salariés ont des enfants, ont des obligations familiales spécifiques, ont un conjoint qui, lui, va avoir des périodes de congés imposés, par exemple une fermeture de l'entreprise les 3 premières semaines d'août et pas du tout de vacances possibles en juillet. Voilà, on va avoir ce genre de choses. Et puis, le dernier élément qui est imposé à prendre en compte, c'est l'ancienneté. Plus on a d'ancienneté dans l'entreprise, plus on est prioritaire dans les périodes de congés payés à prendre. Voilà. Comment ça se détermine? C'est la même chose. C'est soit par accord collectif et à défaut d'accord collectif qui prévoit toutes ces spécificités, on va devoir consulter le CSE pour pouvoir déterminer l'ordre et les priorités de départ en congé payé. Et puis après, c'est ce que je disais tout à l'heure, on doit informer les salariés au moins un mois avant la prise des congés payés de cet ordre qui a été retenu.
Très bien, merci beaucoup. Alors, il n'est pas rare également qu'un employeur demande à un salarié de modifier ses dates de congé. Jusqu'à quelle date peut-il le faire légalement ?
Légalement. Légalement, l'employeur, au plus tard, au maximum, c'est 1 mois avant la date de départ qui avait été prévue. Voilà, donc au plus tard, enfin, votre période de congé, elle était au 1er août. Au plus tard, au 30 juin, il faut informer le salarié qui a une difficulté, qui ne va pas pouvoir prendre ses congés comme il était prévu. Après, le Code du travail nous dit sauf circonstances exceptionnelles, sans pour autant nous préciser quelles circonstances exceptionnelles il entend là. Donc, on regarde un petit peu la jurisprudence qui éventuellement a pu déterminer sur certains cas que oui, effectivement, c'était des circonstances exceptionnelles. On en a un exemple assez frappant depuis 2 ans, c'est la Covid. En réalité, avec la Covid, on a eu une circonstance exceptionnelle qui a autorisé l'employeur jusqu'au 30 septembre dernier encore à pouvoir imposer des jours de congés payés aux salariés sans aucun respect de délai, c'était à quelques jours près. Donc voilà, là, c'était vraiment en dehors de la règle légale de base.
En effet, oui, ça, y a beaucoup d'employeurs qui ont dû le faire et donc beaucoup de salariés qui l'ont subi.
Effectivement.
Je
rebondis sur notre tout petit échange avant qu'on commence la webconférence.
Oui.
Du coup, là, avec les déclarations d'hier soir sur justement la COVID, etc., a priori, il n'y a pas une nouvelle disposition sur la question. Donc, depuis le 30 septembre, c'est terminé. On est revenu aux autres circonstances exceptionnelles, donc au délai d'un mois pour pouvoir modifier les dates de congé. La COVID n'en est plus une, quoi.
Oui, jusqu'à nouvel ordre.
Jusqu'à nouvel ordre.
Parce qu'avec la COVID, on a appris à être très agile et réactif et à subir les informations et les divers changements qui arrivaient à un rythme assez soutenu à un moment quand même. Une autre question, cette fois-ci en lien avec les refus de congés par l'employeur. En partant du principe qu'un employeur a refusé plusieurs fois des congés à un salarié, à la fin de l'année, le salarié n'a pas pu poser l'intégralité de ses congés payés ou de ses RTT. A-t-il droit à un dédommagement ou une indemnité ?
Alors, comme je l'ai dit, c'est l'employeur qui a l'obligation de fixer les périodes de congés ou d'informer son salarié des périodes, du nombre de RTT qu'il a acquis pour que derrière, il puisse les prendre. Donc, dès lors que l'employeur n'a pas permis au salarié de prendre ses congés ou de prendre ses RTT, il est en faute. Donc, déjà, on part de ce principe-là, il est en faute. Le salarié va devoir rapporter la preuve qu'il a été mis dans l'impossibilité ou qu'on lui a expressément refusé des périodes de congés ou de RTT. Donc ça, après, voilà, la charge de la preuve va peser sur le salarié, sur ce manquement. Dès lors qu'il rapporte cette preuve, il y a plusieurs solutions. Soit il va pouvoir, peut-être même en simple discussion, reporter tout ou partie des congés payés qu'il n'a pas pu prendre d'une année sur l'autre. Voilà, hein, on arrive à la fin de la période d'acquisition, de la période de prise. Il n'a pas pu prendre tous les congés parce qu'il y a eu trop de travail, parce que voilà, etc. On en discute avec l'employeur, on peut reporter. Et il y a énormément d'entreprises qui ne prévoient pas la renonciation à ces jours de congés non pris et que le report est réalisé. Sinon, il est possible d'obtenir le paiement de l'indemnité de congé payé correspondant au congé qu'on n'a pas pu prendre au cours de la période donnée. Après, malgré tout, la Cour de justice de l'Union européenne nous dit que l'employeur doit veiller à ce que le salarié ait à minima 4 semaines de congés payés par an. Donc, à part la cinquième semaine où finalement ça reste plus malléable et plus facile de l'abandonner, entre guillemets, de toute façon, l'employeur, en ne permettant pas au salarié d'avoir à minima ces 4 semaines, se met en faute parce qu'il y a un non-respect de l'obligation de repos et du coup de l'obligation de sécurité. Donc, finalement, quand on est employeur, pas permettre à ses salariés de prendre ses repos dans l'intégralité, ça commence à devenir je ne dirais pas dangereux, mais voilà, ça commence à être quelque chose qui peut être problématique pour l'entreprise et pour les salariés. Après, sur la question des RTT, l'employeur a l'obligation, normalement, tous les mois, avec la remise du bulletin de paie, de donner le détail du décompte des RTT qui ont été acquises. Ce qui permet derrière aux salariés d'ouvrir son délai de 2 mois pour pouvoir prendre ses repos compensateurs, enfin ses RTT. Si le salarié ne les prend pas dans le délai de 2 mois alors que l'employeur a apporté l'information qu'il fallait et que c'est le salarié qui est en faute parce que sur cette période-là, il avait la faculté de poser ses jours, etc., dans ce cas-là, il est partiellement fautif. Il y a un risque de perte des RTT non pris. Par contre, si l'employeur ne fait pas cette information au fur et à mesure, alors il y a plusieurs situations, mais si, par exemple, on arrive à la fin du contrat, et je vous avoue très honnêtement, j'ai un cas contentieux en cours sur ce point-là, Le contrat a été rompu, le salarié n'a absolument jamais eu d'informations sur le nombre de jours de RTT qu'il avait acquis, et finalement, il y en a un certain nombre à la fin du contrat qui n'ont pas été payés. Donc, il n'y a pas eu d'indemnisation des RTT acquis, et il n'y a pas eu possibilité de les prendre puisqu'il n'avait pas l'information. Dans ce cas-là, la Cour de cassation vient nous dire eh bien, l'employeur risque une condamnation au paiement d'une indemnité équivalente au RTT non pris, en sachant que normalement c'est du salaire, hein, cette indemnité elle est versée en brut. Eh bien là, comme c'est une condamnation, c'est une indemnisation d'un dommage, on transforme ce montant brut en net, et en plus on y ajoute 10% de congés payés. Donc, voilà, on est sanctionné en qualité d'employeur si on n'a pas respecté cette disposition comme ça. Sinon, après, l'accord normalement est censé avoir anticipé ce genre de situation et il a pu prévoir qu'il y aurait un report et il a pu prévoir également qu'il y aurait une indemnisation du repos non pris. Voilà.
Eh bien, effectivement, oui, j'avais vu des décisions de la Cour européenne de justice assez récentes sur le sujet.
Oui, tout à fait.
Alors, autre thème souvent un peu compliqué, rarement bien compris, c'est l'histoire de fractionnement des congés. Donc, pouvez-vous nous expliquer de quoi s'agit-il et cela permet-il cela ouvre-t-il des droits à des congés supplémentaires?
Alors, la question du fractionnement, en fait, il faut partir du point de départ. On a 5 semaines, on va faire ça simple, 5 semaines, jours ouvrables, donc 30 jours. Dans ces 5 semaines, on a la cinquième qui est complètement à mettre à part, où on a, alors du côté de l'employeur, une facilité à pouvoir la poser en jours séparés, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de poser une semaine, la cinquième semaine, à un moment bien précis dans l'année. Il n'y a pas d'obligation de moment précis dans l'année, si ce n'est qu'elle ne doit pas figurer entre le 1er mai et le 31 octobre de l'année. Donc, elle va être sur tout le reste de la période, mais pas celle-ci. On peut poser un jour par-ci, par-là, et par exemple, pour faire des ponts, ce genre de choses. Donc, l'employeur est vraiment très libre là-dessus. Donc, cette cinquième semaine ne peut pas donner droit à des fractionnements, enfin des jours de fractionnement, même si elle est divisée par l'employeur et voilà, hein, et étalée sur le reste de l'année. Les jours de fractionnement, finalement, ils ne vont concerner pardon, que le congé principal. Le congé principal, ce sont donc ces 4 semaines. En sachant que le Code du travail nous dit, minimum, vous devez pouvoir prendre 12 jours ouvrables en continu. Donc, 2 semaines en continu. Entre le 1er mai et le 31 octobre de l'année. Donc, 6 jours de fractionnement, il doit y avoir. Ça va être sur les 12 derniers jours qui restent, sur entre le 13e et le 24e jour. Et pour y avoir droit, il faut que c'est du 13 au 24e soit posé en dehors de la période de congé principal, donc en dehors du 1er mai au 31 octobre. Alors, il peut y avoir plusieurs cas. Ça peut être, par exemple, vous avez anticipé des congés payés parce que vous n'en aviez pas acquis assez. Et voilà, vous vouliez prendre des congés payés en amont. Donc, dans ce cas-là, ils ont bien été pris avant le 1er mai. Vous n'aviez pas encore acquis, ils ont pris avant le 1er mai. Dans ce cas-là, ils vont vous donner droit à des jours de fractionnement. Ou vous les prenez au-delà du 31 octobre pour voilà, les vacances de la Toussaint, partir à Noël, etc. Là, c'est pareil, ça va vous générer des jours de fractionnement. Les jours de fractionnement, ils sont de 1 jour si on a pris entre 3 et 5 jours de congés payés en dehors de la période de congé principal, et ils seront de 2 jours, tout ça en jours ouvrables, hein, bien sûr, je suis restée sur mon principe de base, si on a pris au-delà de 6 jours de congé payé ouvrable en dehors de la période de congé principal. Voilà, ça c'est sur l'acquisition. Après, il y a une possibilité de renonciation. Dans ce cas-là, il va falloir une renonciation individuelle et écrite de la part de chaque salarié qui accepte le principe de la renonciation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le salarié fait un petit document en indiquant « je sous-signe un tel », accepte le principe de renoncer à ses jours de fractionnement, ce qui veut dire que même si je prends une partie de mon congé principal en dehors de la période 1er mai 31 octobre, eh bien, je n'aurai pas ces jours en plus. Voilà.
D'accord, voilà. Très bien. C'est un peu plus clair pour tout le monde, j'espère. Alors, une petite question concernant les conventions collectives. On connaît leur importance. Et certaines conventions collectives octroient des jours de congés supplémentaires. Donc, il est vraiment très important de les consulter. Pouvez-vous nous donner quelques exemples?
Alors, moi, dans les principales conventions collectives avec lesquelles je travaille, j'avais tout de suite pensé, quand j'ai vu cette question, aux missions locales et PAIO, qui, elles, sont vraiment, je dirais, généreuses en termes de jours de congés supplémentaires. Si je ne me trompe pas, elles déterminent également leurs jours de congés en jours ouvrés, et pas ouvrables, et en plus, elles accordent un certain nombre de jours en plus. Donc voilà. Après, on a la Syntec, Bureau d'études techniques. On a la métallurgie pour les ingénieurs et cadres qui prévoit ça également. L'aide à domicile. Alors, ce sont que des exemples. Je n'ai pas fini, c'est exhaustive. On a également le personnel des agences d'assurance. On a la convention collective de la banque aussi qui prévoit des jours supplémentaires. Mais généralement, ce sont des grosses conventions collectives quand même. Enfin voilà, où il y a beaucoup de personnel, où ça a été négocié en réalité.
En effet. Donc, nous allons passer à notre dernière partie où on abordera donc différents cas particuliers. De manière assez récente, la loi a permis aux salariés de faire don de RTT ou de congés payés à certains de leurs collègues. Donc, dans quelles conditions est-ce possible et comment ça marche?
Alors, j'ai divisé ma réponse en deux blocs. Premièrement, quel jour on pourrait donner? Voilà, sur le principe du don, quels sont les jours qu'on peut donner? Alors, on a tout ce qui est congé payé, mais au-delà du congé principal. Pour faire simple, on a possibilité de donner, mais uniquement la cinquième semaine et les jours de congé conventionnel supplémentaires qu'on aurait. Voilà. Après, on peut donner également des RTT, des repos compensateurs, des journées qui auraient été offertes par l'entreprise, des jours de repos compensateurs obligatoires, c'est-à-dire les jours de repos quand on a fait des heures supplémentaires au-delà du contingent d'heures supplémentaires qui est négocié soit au niveau de la branche, au niveau de l'entreprise. Donc, tous ces jours-là, on peut les donner et en fait, hormis les congés payés où il y a des règles spécifiques, c'est-à-dire que la cinquième semaine et que les congés conventionnels supplémentaires, tous les autres, c'est sans limite. Voilà, on peut donner, on peut cumuler ces RTT, on peut les donner au fur et à mesure, il n'y a pas de limite. Pour qui? Donc, qui sont ces personnes qui peuvent obtenir ce don? Alors voilà, simplement, je rappelle la définition légale qui a été donnée. Il faut être parent d'un enfant de moins de 20 ans qui est atteint d'une maladie ou d'un handicap, ou qui a été victime d'un accident d'une particulière gravité, rendant indispensable la présence soutenue du parent et des soins contraignants. Voilà, il faut déjà cumuler un certain nombre d'éléments. Ou alors, être, en tant que salarié, être une aide à un proche qui a une perte d'autonomie grave ou un handicap, ou encore être un parent d'un enfant de moins de 25 ans qui est décédé, ou un proche d'un parent d'un enfant décédé et dont on avait la charge. Voilà, donc il faut des conditions bien spécifiques pour obtenir ces dons. Et cette générosité, malgré tout, elle est soumise à l'autorisation de l'employeur. C'est-à-dire que les jours qu'on va donner à son collègue, malgré tout, il va falloir avoir obtenu l'autorisation de l'employeur avant de pouvoir faire ce don. Bon, ce qui paraît assez logique puisqu'il faut quand même qu'on puisse vérifier que toutes les règles sont bien respectées et que ça ne part pas dans tous les sens. Voilà. Après, il faut quand même vérifier également qu'il n'y ait pas dans la convention collective des spécificités qui ont encore été prévues au-delà de ça. Hein, voilà, donc et qui peuvent se cumuler avec le dispositif légal.
Oui, bon, ça...
Voilà. Ne jamais oublier la convention collective.
Oui, non, jamais, jamais, jamais. Jamais. Alors, autre question qui nous a été également envoyée. Si un salarié tombe malade pendant ses congés payés ou ses jours de RTT, peut-il les reporter? Et les règles sont-elles identiques si son arrêt de travail commence juste avant ses congés ou ses RTT?
Oui, alors sur les congés payés. Donc, si je tombe malade avant mon départ en congé, Je suis donc malade pendant mes congés. Donc, ce qui signifie, grosso modo, ce n'est pas forcément très clair ce que je viens de dire, ce qui signifie que c'est le premier motif de l'absence qui compte. Voilà. Donc, je suis malade avant de partir en congé, c'est la maladie qui prime. Par contre, j'avais pris, c'est l'été, je suis malade la dernière semaine de juillet, j'avais pris les deux premières d'août. Ma maladie dure jusqu'à la fin de la première semaine de mes congés. Donc, je suis malade une semaine avant, puis la première de mes congés. La troisième semaine, là, c'est-à-dire ma deuxième semaine de congé, je suis en congé, puisque ce n'est plus couvert par un arrêt maladie. Donc là, j'ai ma semaine de congé qui se déroule normalement. Les congés qu'on n'a pas pu prendre, par contre, du fait de la maladie, eux vont être reportés après ma maladie, après ma période d'arrêt du fait de la maladie. Et même, l'employeur a la faculté d'imposer aux salariés, lorsqu'il rentre de sa maladie, lorsqu'il revient travailler, de prendre les congés payés qu'il n'a pas pu prendre durant sa période d'absence. Voilà. Donc, tous les congés qu'on n'a pas pu prendre du fait de la maladie vont être portés après la fin de la période d'arrêt maladie. En revanche, si je suis en vacances et que je tombe malade pendant mes vacances, c'est tant pis pour moi. Je suis malade pendant mes vacances, et ben voilà, il n'y a pas de report des congés payés. Par contre, il y a quand même, entre guillemets, un avantage qui est laissé au salarié malade, c'est qu'il va pouvoir cumuler l'indemnité de congés payés qu'il perçoit et les indemnités journalières de sécurité sociale pendant ce laps de temps. Voilà, c'est le seul avantage, entre guillemets, qu'il va avoir, mais il n'y a pas de report. Je m'étais fait une petite note sur la position, pareil, de la Cour de justice de l'Union européenne, qui elle aussi est venue préciser certaines dispositions sur la question. Alors, ça n'a pas été adopté en France, hein, la Cour de cassation jusqu'à ce jour ne suit pas, mais il n'empêche qu'il faut rester vigilant là-dessus, parce que la Cour de justice européenne nous dit cette histoire de non-cumul entre la maladie, non-remplacement, hein. Je suis malade, je perds mes congés, c'est tant pis pour moi. Normalement, la CJUE, elle considère que non, on perd son congé, on perd son droit à repos parce qu'on est malade et donc du coup, on devrait pouvoir bénéficier de son repos. C'est ce fameux droit à 4 semaines de congé par an pour assurer un temps de repos suffisant des salariés. Donc là-dessus, il n'y a pas la même position. Mais aujourd'hui, en France, on est encore soumis à la règle de la Cour de cassation, donc voilà. On perd le congé qu'on n'a pas pu prendre si on tombe malade pendant sa semaine. Après, sur les RTT, j'ai l'impression d'y avoir un petit peu répondu tout à l'heure. Finalement, si je tombe malade sur un jour de RTT, ce qu'il y a, c'est que les RTT, c'est pris très individuellement. On prend un jour, on prend une demi-journée, on prend ça épisodiquement pour pouvoir… On a besoin d'aller chez le médecin, on se dit je vais poser une demi-journée. Enfin, voilà, ça se déroule comme ça. Donc, c'est quand même assez délicat de tomber malade pile à un moment de jour de RTT. Sauf si ils ont tous été fixés en amont avec des dates déterminées. Bon, sachant que malgré tout, le salarié garde la possibilité d'imposer un certain nombre selon son propre souhait. Mais il n'empêche que simplement la maladie, l'absence, elle va avoir pour effet de ne pas permettre l'acquisition des jours de repos et du coup, il n'y a pas de possibilité de report si je tombe malade sur mon jour de repos. Pour moi, c'est un peu délicat la question en pratique.
Très bien, merci beaucoup. Alors, venons-en maintenant au compte épargne-temps, dans certaines entreprises, la mise en place de compte épargne-temps a été négociée. Alors, c'est un dispositif qui est plus très tendance, que ce soit côté de l'employeur ou même côté des syndicats, justement aussi à cause des positions de la Cour européenne de justice et qui juge que les congés sont sacrés. Néanmoins, comment mettre en place donc ces comptes épargne-temps et comment cela fonctionne?
Alors, ce compte épargne-temps, normalement, il fait l'objet d'une négociation au sein de l'entreprise pour pouvoir le mettre en place, déterminer son assiette, ce qu'on va mettre dedans, comment on va les utiliser, etc. Donc, normalement, c'est au niveau de l'entreprise où on négocie un accord. Ça se négocie. Alors, soit il faut toujours, hein, on y revient encore, il faut regarder quand même ce que la convention collective prévoit, si on n'a pas un accord de branche ou interprofessionnel qui a déjà prévu des spécificités. Voilà, donc ça, il faut quand même regarder en amont. Après, ça se négocie avec le CSE si on en dispose d'un. Si on ne dispose pas de CSE, il reste toujours l'autre faculté, c'est de négocier directement avec le personnel de l'entreprise avec nécessité d'un référendum aux 2/3 en faveur de l'accord qui est proposé. Donc, voilà. Mais de toute façon, ça va se négocier pour pouvoir déterminer comment ça s'applique. Après, qu'est-ce qu'on va mettre dedans et comment ça fonctionne? Ça permet quoi? D'accumuler des droits à des congés rémunérés. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir y mettre sa 5e semaine de congés payés et ses jours de congés conventionnels supplémentaires. Hein, on est toujours sur cette même règle, c'est-à-dire que les 4 semaines de congés principaux, on ne peut pas y toucher. Voilà. Donc, ça, on ne va pas le mettre dans le compte épargne-temps. On va pouvoir y mettre également... on peut y mettre tout ce qui est repos. On peut y mettre également donc RTT, repos compensateur obligatoire, repos issu du forfait jour, enfin tout ce qui est repos en fait. Voilà, ça va pouvoir être mis dedans. On peut également y mettre des sommes. On peut décider d'affecter certaines parties de rémunération dans le CET, enfin dans le compte épargne-temps. Et puis après, comment ça s'utilise? Déjà, forcément, on va revenir à la base, hein, c'est-à-dire le texte qu'il a mis en place, qu'est-ce qu'il a prévu, quelles sont les règles à appliquer. Donc, premièrement, on vérifie ça. Après, sur la question des congés payés qui ont été placés, c'est une règle spécifique encore. Si on veut les sortir du compte épargne-temps, il va falloir les sortir uniquement, possibilité de les sortir eux-mêmes en repos. C'est-à-dire que j'ai mis ma 5e semaine ou une partie de ma 5e semaine dans mon compte épargne-temps, j'ai besoin de temps, justement, de repos pour moi, je vais pouvoir sortir ça de mon compte épargne-temps. Tout le reste, ça va pouvoir être sorti en rémunération. C'est-à-dire que je peux placer un repos compensateur dans mon compte épargne-temps et finalement le ressortir en rémunération correspondant à ce que j'aurais eu droit comme indemnité si ça avait été payé à ce moment-là, enfin s'il avait été payé en RTT. Voilà. Donc ça, pour le coup, là, après, ça suit la même chose, c'est soumis à cotisation, enfin à charge sociale. Donc voilà, ça suit c'est du salaire. Mais ça peut être sorti comme une rémunération. Et après, je reviens sur la question du don de jours qu'on évoquait tout à l'heure à des collègues. Effectivement, on peut piocher sur son compte épargne-temps pour aller faire un don à un collègue qui répond aux définitions qu'on a évoquées tout à l'heure. Et dernière option, on peut abonder sur un compte perco retraite ou une retraite supplémentaire. Donc, voilà ce qu'on peut faire avec son compte épargne-temps.
Très bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Donc, on arrive au terme de cette webconférence. Alors, manifestement, le sujet a vivement intéressé tous les internautes. Il y a eu beaucoup de questions et beaucoup de messages par chat. Je vous rassure, pour celles et ceux qui n'ont pas eu réponse à leurs questions, et pour certaines d'entre elles, j'en ai vu passer, qui étaient hyper précises. nous transmettrons ces questions à notre équipe de juristes qui vont vous recontacter dans les jours à venir, je m'y engage. Voilà, donc j'espère que ce format vous aura plu. Donc je vous redonne les coordonnées de Maître Pommier. Je me suis trompée de fenêtre, voilà. Donc n'hésitez pas à la contacter également pour de plus amples informations et pour tout besoin de conseils juridiques. N'hésitez pas également à nous donner votre avis sur cette webconférence. Ma collègue Marine doit être en train de vous transmettre un petit lien qui vous permettra de donner votre avis. On a toujours à cœur d'avoir vos avis pour améliorer nos contenus. Et comme annoncé au début de la webconférence, nous vous donnons, vous aussi, la possibilité de poser vos questions à nos juristes. Et Marine, là encore, va vous transmettre le lien. J'invite également les élus qui sont présents à cette webconférence à nous rejoindre dans les deux groupes privés qui existent sur Facebook et sur LinkedIn, où nous pourrons continuer à échanger. Et enfin, je vous donne rendez-vous pour notre prochaine webconférence qui sera la dernière de la QV 2021. Elle aura lieu mardi prochain, toujours à 14h. Et nous y parlerons de la réforme de la santé au travail et des changements que cela apportera en 2022. Donc, comme aujourd'hui, cette webconférence s'adressera aux chefs d'entreprise, aux RH, aux représentants du personnel. Et j'aurai le plaisir de l'animer avec Maître Aurouet Immer, qui est avocate au barreau d'Aix-en-Provence. Marine vous communique actuellement le lien pour vous inscrire. Donc, je vous remercie encore, Maître Pommier, d'avoir accepté d'animer cette webconférence avec moi.
Merci beaucoup, hein, merci à vous.
Merci à tous d'avoir assisté à cette webconférence. Au revoir et à très bientôt, j'espère à la semaine prochaine. Au revoir à tous.